Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie et le privilège d'accueillir à nouveau dans notre studio de FM Évangile 66 le pasteur Paul Calzada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci, merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
Connu sur tous les continents, on ne le présente plus, mon ami de 2 fois 30 ans. Puisque c'est déjà la 3e visite qu'effectue Paul Calzada dans le studio de notre radio, nous l'intitulons « Partage » afin de permettre à ceux qui le désirent de retrouver cette interview et les précédentes sur notre site web dans la rubrique « Texte-message ». Le replay est aussi disponible. Paul Calzada va donc partager avec nous son travail et son expérience de pasteur-enseignant et également écrivain, puisque auteur de méditation, publié sous forme de pensée d'un jour, tout au long des mois et de l'année. Je dirais pour être précis, la liste s'allonge de jour en jour. Malgré l'embarras du choix, il faut bien aborder un premier sujet. Je propose que nous parlions librement de liberté, comme une suite logique à la réflexion proposée lors de ta précédente visite.
Eh bien, je souhaiterais, pour aller dans ce sens, rappeler un point que nous avions évoqué la fois dernière au sujet de la diversité des pensées. Qu'il y ait des pensées divergentes, c'est inévitable, et je dirais que c'est même nécessaire. Si chacun admet que l'autre puisse penser différemment, n'est-ce pas déjà avoir une même pensée ?
En effet, et je n'y avais pas pensé.
La divergence des pensées nous invite à la patience, à l'ouverture d'esprit, à l'amour qui espère, au support mutuel, à l'humilité même. Car, où que nous en soyons, au niveau de notre maturité spirituelle, nous avons encore des progrès à faire. Chacun pour notre part, admettons que nous pouvons encore progresser. Là où il y a risque, c'est lorsque, en tant que fidèles, nous n'arrivons plus à penser par nous-mêmes et que nous nous soumettons, sans une saine réflexion, aux directives d'un leader qui impose ses propres idées sans se prêter au dialogue. Alors que l'apôtre Paul souligne cette nécessaire unité liée à la maturité dans son épître aux Philippiens, quand il dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire des adultes, ayons cette même pensée. » Nous trouvons cela dans Philippiens chapitre 3, verset 15. Il modère ce besoin d'avoir une même pensée par ces quelques mots. « Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Au fond, ce que souhaite l'apôtre, c'est que le groupe arrive à une même pensée, non parce que cette pensée est imposée, telle une pensée unique, mais parce que chacun, ayant bien pensé par lui-même, en arrive librement à la même conclusion.
Ce que tu développes ici est important, puisqu'il est question de penser librement par soi-même. Nous voici donc au cœur du partage de ce jour, la liberté.
En effet, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, pouvez-vous vous poser cette série de questions? Par exemple, les pensées qui me sont proposées sont-elles conformes à mes convictions spirituelles? Sont-elles conformes aux fondements de l'Écriture auxquels je crois? Respectent-elles les règles du bon sens et de la bienséance? Me demande-t-on d'adhérer sans comprendre? Ai-je l'opportunité de poser des questions? Lorsque nous nous posons ces questions et que le consensus découle d'un débat libre et ouvert, lorsque vous pouvez penser par vous-même et émettre une voix différente, sans que vous soyez voué aux gémonies, alors il peut se dessiner une unité en Christ, même dans la diversité des opinions.
Au sein d'une communauté, y a-t-il des limites quant à la liberté individuelle ?
Voilà une question intéressante. Lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, nous voyons qu'il préfère que chacun développe sa propre maîtrise de la liberté. Par exemple, il écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. »
Il semble dire qu'il n'y a pas de limite à notre liberté, si ce n'est celle que nous nous imposons nous-mêmes.
Exactement. Je voudrais faire une confidence à nos auditeurs. Alors que j'étais interne au lycée, pas mal de mes camarades de classe avaient pris l'habitude de fumer en cachette. Lorsque j'étais, moi, dans ce lycée, j'étais l'un des rares élèves à ne pas fumer. Certains pensaient que c'était ma religion qui me l'interdisait, car ils savaient que j'appartenais à l'Église évangélique. J'avais beau leur dire que ma foi de chrétien évangélique ne m'interdisait pas de fumer, mais ils ne me croyaient pas. Alors un jour, j'ai dit à l'un de ses camarades qui fumait et qui prétendait que je vivais avec des interdits religieux, je lui ai dit donc, « Donne-moi ta cigarette et je vais fumer devant toi, car ma religion ne me l'interdit pas. » Après avoir aspiré cette fumée nauséabonde, je lui ai rendu sa cigarette et je lui ai dit en ajoutant, « Tu vois, je suis libre de fumer ou pas, mais j'ai choisi librement de ne pas fumer. »
S'il n'y a pas d'interdit religieux, quelles sont les raisons qui nous conduisent à limiter notre liberté ?
Bien, l'apôtre Paul nous donne une piste. Bien que tout lui soit permis, dans le cadre de la liberté qui était la sienne, il avait décidé d'utiliser deux critères qui l'aidaient à limiter sa propre liberté. Deux simples questions. Première question, est-ce utile ? Deuxième question, est-ce édifiant ? Il avait décidé, avant d'user de sa liberté, de se poser ces questions essentielles. Ce que je veux faire, ce que je veux dire, est-ce édifiant ? Est-ce utile ? Bien que se sentant totalement libre de le faire ou de le dire, il jugeait que cela n'était ni utile. S'il jugeait que cela n'était ni utile ni édifiant, il ne le faisait pas. Il ne le disait pas. La décision de limiter sa propre liberté reposait sur ces critères fondamentaux de l'utilité et de l'édification. Certains se posent toutes sortes de questions du genre « Un chrétien peut-il fumer ? Peut-il aller en boîte de nuit ? Peut-il ne pas aller à toutes les réunions ? Peut-il jouer aux jeux de hasard ? etc. » Toutes ces questions que vous pourriez multiplier à l'infini n'ont aucune raison d'être posées. Les seules questions que Paul se posait et qu'il vous invite à vous poser sont « Est-ce utile de fumer ? Est-ce édifiant d'aller en boîte ? Le fait de ne pas aller aux réunions contribue-t-il à mon édification ? etc. » Apprenez à limiter votre liberté. Utilisez ces deux simples questions, est-ce utile, est-ce édifiant? Si la réponse à ces questions est négative, n'hésitez surtout pas à limiter votre liberté.
Ce n'est pas évident. N'y a-t-il pas une perte de liberté si nous la limitons?
Mais si vous n'arrivez pas à contrôler votre liberté, c'est finalement peut-être que vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » Il avait compris que s'il ne pouvait pas limiter sa propre liberté, c'est qu'alors il était esclave, c'est-à-dire asservi, par la chose qu'il ne pouvait limiter. Si vous ne pouvez pas contrôler votre liberté, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas libre. Si c'est votre cas, adresser à Dieu cette simple prière en ce jour, Seigneur. Je te prie de me permettre de conquérir les espaces de liberté dans lesquels tu veux que j'entre, que je puisse choisir librement de ne pas être asservi par ce qui n'est ni utile ni édifiant.
Quelles sont les raisons pour lesquelles la liberté peut être muselée?
On peut museler la liberté au nom de l'ordre et de la bienséance. On peut comprendre qu'il soit interdit d'inciter à la haine et au meurtre. Et on comprend également qu'il soit interdit de calomnier ou de diffamer qui que ce soit. Cependant, au nom de l'ordre, on peut limiter excessivement la liberté.
Peux-tu donner un exemple?
Un exemple biblique. Lorsque les premiers disciples ont commencé à partager l'évangile dans la ville de Jérusalem, les religieux de l'époque les ont convoqués une première fois et leur ont fait des menaces. Ils leur ont interdit de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Puis, ces religieux ont délibéré entre eux, nous voyons cela dans Actes chapitre 4, verset 16, et ils ont dit « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17, mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà des religieux qui ont voulu museler la liberté des disciples.
Cela existe-t-il encore?
Eh bien, l'une des raisons de la multiplication des dénominations, c'est, je pense, pour une part, cette intolérance vis-à-vis des opinions d'autrui. L'apôtre Paul, après avoir rappelé que Christ doit être au centre de notre vie de croyant, dit « Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Philippiens 3, verset 15. Mettre Christ à la première place, n'est-ce pas là la quintessence de l'Évangile? Tout ce qui est autour de cette primauté peut varier d'un groupe à l'autre. À chacun de respecter la liberté des autres.
Maintenant, une question saugrenue. Peut-on mesurer la qualité de la liberté dans les communautés?
Oui, si par exemple lorsqu'on exprime une pensée qui sort de la pensée unique dans un groupe et que l'on devient suspect, que l'on est mis à l'écart, on est en droit de s'interroger sur la qualité de liberté qui existe dans ce groupe. Si vous devenez une brebis galeuse et que vous subissez un ostracisme marqué dans le groupe où vous êtes, pour avoir exprimé un avis différent des autres, c'est que la liberté d'expression est muselée. À l'époque de l'Inquisition, vous risquez votre vie. Aujourd'hui, votre vie sera épargnée. Mais votre honneur pourra être terni.
C'est là un aspect qui souligne en effet le manque de liberté. Mais y a-t-il un aspect positif de la liberté?
Bien, dans le livre de la Genèse, nous trouvons une parole prophétique prononcée sur l'un des fils de Jacob. Je cite « Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles ». Cette prophétie établit un lien entre la liberté et la parole. Il est à noter d'ailleurs que cette liberté de parole n'a qu'un aspect positif. Il prononce de belles paroles. La traduction Osterwald dit « d'élégantes paroles ». La liberté de parole, préconisée par cette prophétie, exclut la médisance, les jugements de valeur, la critique acerbe, la diffamation, l'inélégance, l'irrespect. Aussi longtemps que nous disons du bien des autres, il n'y a pas de limite à la liberté.
Sur cette belle parole, nous faisons une pause musicale.
Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard, pour que mon jugement reste dans ta lumière. Oh, donne-moi tes yeux, oh Jésus, oh, donne-moi tes yeux. Seigneur, quand je rencontre mon frère et qu'il porte son chagrin, pour que mon amitié console sa misère, oh, donne-moi tes mains, oh Jésus, oh, donne-moi tes mains. Seigneur, quand je rencontre la haine qui me barre le chemin, pour que mon cœur humain soit plus fort que ma peine, oh, donne-moi ton cœur, oh Jésus, oh, donne-moi ton cœur. Seigneur, quand je suis seul sur la terre, isolé parmi les miens, pour que demeure en moi ta paisible lumière, donne-moi ton amour, ô Jésus, donne-moi ton amour.
Me sentant maintenant la liberté de dire que tu as plusieurs cordes à ton arc, je précise que tu as de même plusieurs pierres dans ta gibecière.
Merci. Dans l'un de mes recueils, j'ai fait un mini-inventaire de quelques-unes des pierres mentionnées dans la Bible. Chacune d'elles a un message pour nous. Mais dans la Bible, il y a une pierre qui occupe une place centrale. C'est celle que mentionne l'apôtre Paul. Je cite « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens chapitre 2, verset 20. Le terme de pierre angulaire est utilisé dans la Bible comme une métaphore pour désigner la personne du Messie. C'est d'ailleurs le prophète Ésaïe qui formule en premier cette image. Il dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Ésaïe chapitre 28, verset 16. À ce sujet, cher ami Elios, il me semble que tu as toi-même développé un partage sur le texte que je viens de lire et sur d'autres textes, Matthieu chapitre 16 et suivant. Par exemple, la Bible en français courant qui dit « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te déclare que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je construirai mon église, et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Pourrais-tu, Elios, nous rappeler ce qu'il faut entendre au sujet de ce jeu de mots que Jésus emploie concernant le vocable « pierre ».
Oui, cela avait été développé dans le cadre de l'étude concernant l'Église de Jésus-Christ et des noms donnés à ceux qui la composent. Les auditeurs peuvent retrouver le texte et le replay de toutes ces émissions, y compris celles concernant tes interviews, cher frère Paul, sur le site web de la radio, rubrique texte-message. Pour répondre à ta question, voilà ce qui avait été dit. Après avoir demandé ce que disent les gens à son sujet, Jésus a interrogé ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Car l'important, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais bien ce que chacun pense librement, en son âme et conscience. La piété, la relation avec Dieu, est affaire personnelle, chacun ayant à rendre compte pour lui-même. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Extraordinaire confession de foi. Jésus souligne qu'une telle confession de foi est le fait d'une révélation divine. Sans cette révélation, pas de conversion réelle. Ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis, Jésus précise, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. » Plusieurs versions françaises traduisent « cette pierre » par « rocher » ou « roc ». La version catalane dit, je cite, « Tu espere, y sobre aqueste pedre edificare la meva iglesia ». La version castillane dit, je cite, « Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia ». Une de mes filles m'a offert un Nouveau Testament anglais-japonais. Je lirai seulement la partie en anglais. « You are Peter, and on this rock I will build my church. » Que nous dit le texte original, écrit en grec? S'il vous plaît, pardonnez ma prononciation, car hormis mon prénom, je ne connais pas cette langue. Toutefois, il est aisé de se procurer le texte afin de vérifier le fondement des écrits. Assuré de votre indulgence pour ce qui est de la prononciation, je cite « Suei Petros, kai epitaute, te Petra, oikodomeso, muten, ecclesian. » Le prénom de l'apôtre, que Jésus a surnommé Cephas lors de leur première rencontre, signifie pierre, caillou, et non roc ou rocher. Je lis Jean chapitre 1 verset 42, Bible français courant. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon le fils de Jean, on t'appellera Cephas. » Ce nom signifie pierre. Dans le texte grec, c'est donc Petros. C'est le mot Petra qui désigne le roc sur lequel l'Église va être fondée.
Merci pour cette belle explication. En effet, à la lecture de tous ces textes, il est impossible de confondre les mots « pierre » et « rocher ».
À la lumière des Écritures, il est clair que le roc sur lequel Jésus établit son Église est sa personne et sa divinité. En conclusion de la parabole de la vigne, affermée à des vignerons insensés et meurtriers, Marc chapitre 12, verset 1er et suivant, Jésus cite le psaume 118, verset 22. Le voici. Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale de l'angle. L'apôtre Pierre y fait aussi référence dans sa première lettre, chapitre 2, verset 7. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Je lis. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale pierre de l'angle.
Je vois donc cette explication, qui est très très juste et qui me paraît tout à fait exacte, remet au centre celui qui doit rester au centre, c'est-à-dire Christ, comme seule et unique base de la foi des chrétiens.
En effet. D'ailleurs, pourrais-tu nous dire, avec l'Écriture, qu'est-ce qu'être chrétien ?
Merci de me renvoyer la balle. Il existe des centaines de dénominations chrétiennes. Au sein même des grandes familles chrétiennes, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, évangéliques, on retrouve des sensibilités, des dogmes, des rites extrêmement divers. Tous les fidèles appartenant à ces divers groupes se disent chrétiens. D'où la question que tu me poses. Qu'est-ce qu'être un chrétien ? Si être chrétien, c'est appartenir à telle ou telle dénomination, il faudrait en conclure que tous ceux qui n'appartiennent pas à cette dénomination ne sont pas de vrais chrétiens. Et malheureusement, il existe dans chaque groupe des extrémistes qui croient cela. En réalité, il n'en est rien. Le dogme, la dénomination, les rites ne font pas de quelqu'un, quel qu'il soit, un chrétien.
D'accord. Mais alors précise, qu'est-ce qu'un chrétien ? Je dirais avec un peu d'humour, est-ce quelqu'un qui a placé un autocollant en forme de poisson sur le coffre de sa voiture ?
Un jour, je saluais par un gentil petit coup de klaxon un automobiliste ayant cet emblème sur l'arrière de son véhicule, et il me répondit en me faisant un geste très incorrect. Drôle de chrétien, n'est-ce pas ?
En effet.
Donc dans Marc chapitre 1er verset 17, il est précisé que les premiers disciples suivirent Jésus. Un chrétien est quelqu'un qui a rencontré le Christ et qui, jour après jour, se met à le suivre. C'est quelqu'un qui n'est pas attaché au filet des dogmes ou des rites, mais qui est décidé à suivre Christ sur des sentiers inconnus, en allant à la rencontre des autres, en s'intéressant au laisser pour compte, et cela, quel qu'en soit le prix à payer. C'est quelqu'un qui ne se pose pas d'autres questions que celle-ci, « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est quelqu'un qui n'est pas statique, qui va de l'avant, qui sort des ornières, des traditions religieuses asservissantes, et qui, ayant découvert la liberté qui est en Christ, va annoncer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu aux blessés de la vie. Être chrétien, c'est donner du pain à celui qui a faim, c'est accueillir le malheureux sans asile, c'est tendre la main à celui qui est à terre pour l'aider à se relever, c'est redonner espoir à celui qui est abattu. En un mot, c'est aimer son prochain comme Jésus l'a fait.
Oui. Effectivement, le christianisme n'est pas dans la posture, dans la gestuelle, mais bien dans l'expression d'amour qui vient du cœur, n'est-ce pas ?
En effet, en lisant les évangiles, on remarque que la seule chose que Christ a dénoncée avec vigueur, c'est l'hypocrisie des religieux, leur dogmatisme, leur rejet de ceux qui n'étaient pas comme eux. Être chrétien, c'est donc s'opposer à ce qui nous concerne, à toute forme d'autosatisfaction religieuse et de comportement hypocrite. En ce jour, posons-nous la question. Suis-je un suiveur de religion, un suiveur de rite, le suiveur d'un homme charismatique plus ou moins manipulateur, ou suis-je quelqu'un qui a décidé de suivre Christ en se laissant inspirer par son exemple?
La question nous incite à réfléchir. Écoutons une nouvelle page musicale. Thank you. Paul, j'ai souligné en débutant cette émission ton travail et ton expérience de pasteur enseignant et écrivain, puisque auteur de méditations publiées sous forme de fascicules intitulées « Pensée d'un mois, pensée d'un jour » tout au long des mois et de l'année. Et pour être précis, j'ai dit « La liste s'allonge de jour en jour. » Au fait, combien de fascicules sont publiés à ce jour ?
Il y en a 13. Je me permets de rappeler les titres de ces 13 livres. Ces animaux qui nous enseignent.
Ces animaux qui nous enseignent.
Qu'est-ce que la justice ?
Qu'est-ce que la justice ?
Dieu créa la famille.
Dieu créa la famille.
Marcher dans la grâce.
Marcher dans la grâce.
J'aime ta parole.
J'aime ta parole.
Liberté chérie.
Liberté chérie.
Le monde de nos pensées.
Le monde de nos pensées.
Sur les pas de Marc.
Sur les pas de Marc.
Quand les pierres parlent.
Quand les pierres parlent.
Et les quatre derniers. Clarté sur l'épître aux Hébreux.
Clarté sur l'épître aux Hébreux.
Qui, reprenant quelques versets de cette épître, a pour objectif de nous conduire vers la croissance et la maturité spirituelle. Ensuite, la guérison intérieure.
La guérison intérieure.
Qui aborde la réponse que Dieu apporte aux nombreuses blessures de nos âmes. Vient ensuite la réussite selon la Bible.
La réussite selon la Bible.
Qui s'éloigne des thèses de l'évangile de la prospérité et... Les leçons bibliques du monde végétal.
Les leçons bibliques du monde végétal.
Qui, à partir de diverses plantes de la Bible, nous encouragent dans notre service pour Dieu.
Pourrait-on, comme on dit, avoir un échantillon de ces pensées quotidiennes ?
Par exemple, pour ce qui est du livre « Clarté » sur l'Épître aux Hébreux, je fais donc lecture du thème « Des enfants » ou des maîtres, point d'interrogation. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. L'auteur reprend ses lecteurs pour leur lenteur à comprendre, pour leur infantilisme spirituel, pour leur paresse spirituelle, en un mot, pour leur immaturité. Cette répréhension a pour but de stimuler leur attention, d'exciter leur désir de progresser, de secouer la torpeur et l'immobilisme. La tendance naturelle de l'homme, en effet, n'est-ce pas celle du moindre effort ? Végéter spirituellement est plus facile que de croître. Il est plus facile d'être assisté que de se prendre en charge. En écrivant ainsi, l'auteur veut stimuler et responsabiliser ses lecteurs. Il leur dit « Vous devriez être des maîtres ». Il y a un décalage entre ce qui est et ce qui devrait être. Attention. Le mot « maître » n'a rien à voir avec l'esprit de domination. Ce que l'auteur veut dire, c'est que les Hébreux devraient être capables d'enseigner. Des maîtres qui enseignent. Êtes-vous des assistés perpétuels ou êtes-vous capables de communiquer ce que vous avez reçu de Dieu ? Dieu vous appelle à être des hommes faits ou des femmes. C'est-à-dire de ceux dont la conscience est éveillée, qui ne sont pas influencés par les uns et les autres, par les modes ou les courants, de ceux qui, nourris de la parole, vivent par la puissance régénératrice de la croix.
Voilà tout un programme sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Mais peux-tu nous donner un exemple ? Extrait du livre « Des plantes qui nous enseignent ».
Oui, en effet, le livre sur les plantes commence par cette pensée. Diversité et complémentarité. Dieu dit dans la Genèse au chapitre 1, verset 29, « Je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit, ce sera votre nourriture. » L'objectif de la grande diversité dans la création des plantes, c'est leur complémentarité. Si notre alimentation n'était basée que sur une seule plante, cela créerait un déséquilibre propice à toutes sortes de maladies. Dieu a voulu la diversité pour que dans cette immense variété, nous trouvions la complémentarité dont notre corps a besoin. Nous retrouvons dans cette création infiniment variée du monde végétal, trois grands principes qui régissent le fonctionnement divin. Premièrement, Dieu est le créateur à la fois de la diversité, de la complémentarité et de la finalité. Imaginez une terre où il n'y aurait qu'une seule espèce de plante. Combien ce serait triste et invivable. Cette abondante diversité nous invite à accepter au sein de la communauté humaine les différences. Acceptons nos différences. Voyons dans celle-ci une manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu et en même temps une expression de sa volonté. Mais la diversité a aussi un but, la complémentarité. Par exemple, les œillets d'Inde font fuir les parasites qui attaquent les tomates. Les odeurs émises par les carottes protègent les oignons de leurs prédateurs et vice-versa. Les chercheurs ont mis en évidence les bienfaits d'une agriculture basée sur la complémentarité des plantes pour se protéger les unes des autres. De même, nos différences au sein de nos communautés doivent être une raison pour nous entraider, nous protéger les uns les autres. La finalité des plantes est de permettre le maintien de la vie sur Terre. De même, nous qui sommes enfants de Dieu, la finalité de nos existences diverses et complémentaires, c'est de répondre à cette injonction du Seigneur, « Donnez-leur vous-même à manger. » Marc, chapitre 6, verset 37. Ainsi, apprenons à mettre nos dons, complémentaires et différents, au service des autres, pour le salut d'un plus grand nombre.
Voilà, avant de terminer cette interview, ce partage, j'aimerais donner quelques petits détails de précision. Pour ceux qui voudraient passer commande, quelques indications utiles. Le prix de ces petits fascicules est de 5,90 € et la radio FM Évangile 66 peut faire suivre vos commandes. Tout en nous mettant à votre service, nous avons ainsi, en servant de relais, un retour de l'écoute et de l'intérêt que vous portez à cette émission. Toutefois, pour ne rien vous imposer, vous pouvez aussi contacter les éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan. Éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan Corbière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés à l'écoute, et à très bientôt. Amen.